Audiolib présente La traversée des temps, tome 2, La porte du ciel, de Eric Emmanuel Schmitt, lu par l'auteur.
Prologue. Il court. Combien de fois Noam s'est-il évadé? Il court à perdre haleine. La fuite n'apporte pas une solution, elle dessine une méthode. S'échapper, réfléchir, agir. Noam quitte le repère des activistes. 3 jours. Il lui reste 3 jours. Si, durant ce délai, ils ne parviennent pas à révéler au monde leur plan d'extermination, ils attaqueront les centrales nucléaires, provoqueront une pénurie d'électricité, une rupture d'Internet, une panique généralisée. Au milieu de ce désordre, il leur suffira d'enchaîner les attentats pour finir de précipiter la civilisation dans le chaos. Les survivalistes radicaux haïssent cette société. Ils n'ont qu'une idée en tête, la supprimer afin d'en instaurer une autre dont ils deviendront les maîtres. Il court à toute vitesse. La nuit l'écrase, lourde de la chaleur diurne. Pas un brin de fraîcheur. Tout se pétrifie. Les arbres, les herbes agonisantes de sécheresse, le ciel noir percé d'étoiles minérales, la lune bilieuse. Rien ne respire. Aucun ululement n'aère l'affûtait, nulle roucoulade ne frémit. Noam sillonne un tableau figé, mais il demeure en alerte. Derrière lui, les hommes de l'arche peuvent à chaque instant surgir et ils n'hésiteront pas à l'abattre. Il court. La peur lui procure de l'énergie, délie ses chevilles, augmente l'afflux de sang dans ses cuisses, l'équilibre en fonction des obstacles, cailloux, racines, dénivelés. En dévalant le flanc de la propriété, il accédera bientôt à la route. Soudain, il entend des battements sourds, doublés de sifflements. Quelqu'un le talonne. Aux abois, il se camoufle contre un pin. Entre 2 expirations trop bruyantes qu'il peine à calmer, il perçoit une présence quelque part en contrebas. Collé au tronc, dont la résine empoisse ses paumes, il récupère le contrôle de son souffle, distingue mieux les martèlements intermittents. D'où perce-t-il? Il inspecte les alentours, braque son regard à droite, à gauche, et se rend compte que les coups viennent de son cœur, les stridulations de ses bronches. Il n'était poursuivi que par lui-même. Furieux d'avoir cédé à l'affolement, il prend son élan et repart. Le mur d'enceinte. À cet endroit, ni capteur ni caméra ne se dissimulent. Il se hisse au sommet, enjambe les tessons et se réceptionne dans un fossé bordant la route. Adieu l'arche. Au fond de son sac à dos, il transporte un objet capital. L'ordinateur qu'il a dérobé aux fanatiques, lequel renferme le lien entre la cellule libanaise et l'organisation centrale. Quand Mahmoud, Charlie, Hugo constateront le vol, une fureur meurtrière s'emparera d'eux. Plus une seconde à gaspiller. Noam se dirige du côté pentu de la route et la descend au galop. Une voiture décapotable apparaît. La musique qui s'en dégage pétarade plus fort que le moteur. Un orchestre de violons et de cuivres accompagnant un chanteur sirupeux illumine le sombre paysage, brouille le son du véhicule qui rugit pourtant comme un lion affamé. Noam se place au milieu de la voie. La voiture persévère, imperturbable, à une folle célérité. Il chancelle. Elle ne ralentit pas, elle fonce droit. Aveuglé par les phares qui se rapprochent, Noam se maintient au centre de la chaussée, sur le qui-vive, prêt à plonger au dernier moment dans le fossé. La voiture pile à moins d'un mètre. Une voix rigolarde en jaillit. « Hé mec, génial! Quel cran j'adore !» Comment sais-tu que j'ai fait réviser mes freins? C'est toi qui m'as expédié la facture?